La rentrée scolaire sur le terrain pour les élus, pour le gouvernement, Alcide Ponga et Isabelle Chamorro se sont rendus au lycée du Mont-d'Or. La présidente de la province sud, Sonia Baquès, à l'école Michel Amiot à Magenta. Le manque de personnel soignant oblige la clinique Magnin à reporter des opérations chirurgicales, mais la sécurité des soins reste une priorité. Les pays européens en difficulté face à Donald Trump, ils peinent à afficher une position commune sur les éventuelles discussions sur un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Elon Musk s'apprête à lancer son propre système d'intelligence artificielle. Il affirme que ce sera l'IA la plus intelligente au monde, mais la fiabilité des données qui reposent sur le réseau X pose des questions. Et puis en football, l'heure de vérité pour Monaco. Les Monégasques devront s'imposer demain matin à Lisbonne pour décrocher une place en 8e de finale de la Ligue des Champions. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les émeutes de mai 2024 ont chamboulé la vie calédonienne. De nombreux événements culturels et festifs incontournables ont été annulés. C'est le cas de nombreuses foires. Comment les organisateurs se préparent pour cette année 2025? Quels événements sont maintenus dans leur commune et sous quelle forme? C'est ce que nous verrons dans notre magazine citoyen dès la fin de ce journal. Nous serons en compagnie de Liva Hiroy, le président du comité organisateur de la foire de Bourail, d'Antoine Romain, le directeur de cabinet de la mairie de Païta, de Christophe Chiara, le président du comité de foire de Koumac et de Pascal Vittori, le maire de Boulou-Paris. Rendez-vous pour le magazine citoyen dès la fin de ce journal que nous ouvrons évidemment par une nouvelle page spéciale rentrée scolaire.
Suivez les pages rentrées avec Bureau Vallée.
La rentrée a pris fou, c'est chez Bureau Vallée Magenta. Le sac à dos Eastpak Padded Packer est à 5900 francs. Et pour une rentrée encore moins chère, Bureau Vallée rachète votre ancien cartable en bon état jusqu'à 1500 francs en bon d'achat. Offre valide jusqu'au 17 février 2025.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Depuis hier, les responsables institutionnels se rendent dans différents établissements scolaires pour rencontrer les élèves, mais aussi l'ensemble des équipes éducatives et d'encadrement. Ce matin, Alcide Ponga, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, était en visite au lycée du Mont-d'Or à Saint-Michel pour rendre notamment hommage au professionnalisme des équipes de cet établissement qui ont été, comme dans de nombreux autres établissements, très sollicités lors des émeutes de l'an dernier. Alcide Ponga.
Au-delà du lieu, c'est de rendre hommage au personnel enseignant. J'ai appris ici qu'il y avait eu des organisations tout au long de l'année dernière quand il y a eu les émeutes. Donc une organisation avec des enseignants qui étaient bloqués dans le sud et qui ont par eux-mêmes souhaité maintenir la continuité pédagogique. Et donc ils ont été accompagnés non seulement par leur direction, mais l'ensemble des collectivités derrière. Et c'est l'occasion aussi pour nous de remercier ce personnel qui porte ce sacerdoce de former la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie. Il porte ce lourd fardeau-là de faire à ce que l'école construise la société de demain et que les enfants, les jeunes puissent décider demain de leur avenir non seulement individuel, mais collectif.
Le président du gouvernement a pris du temps pour écouter les personnels de direction, mais aussi les enseignants du lycée du Mont-d'Or. Cette année scolaire 2024 aura été très compliquée, mais sans occulter ce qui s'est passé ces derniers mois, il faut désormais aller de l'avant, nous dit Maxime Jandel, le proviseur du lycée du Mont-d'Or.
Alors comment on se projette 2025? Déjà avec à peu près 800 élèves, donc répartis dans les filières habituelles, avec également de nouvelles filières puisqu'on récupère notamment le bac pro ASSP, accompagnement, soins et services à la personne du lycée P3 Titi. Donc on est content de pouvoir dépanner ces élèves et aussi d'accueillir de nouveaux enseignants. On a aussi un nouveau dispositif Ulysse professionnel, donc pour accueillir des élèves en situation de handicap dans des formations professionnelles. C'est un dispositif qui existait sur le lycée P3 à Titi et on a pu aussi, pour récupérer certains de ces jeunes, l'ouvrir au lycée du Mont-d'Or. Voilà, après, nous préparons une année entre guillemets ordinaire et nous espérons que nous n'aurons pas à déployer un plan B en cours d'année.
Pour ce déplacement à Saint-Michel, Alcide Ponga était accompagné par Isabelle Chamorro, membre du gouvernement en charge notamment de l'enseignement, par le vice-recteur Didier Vindatich, présent également bien évidemment Eddy Lecourieux, le maire du Mont-d'Or, qui tenait à souligner que malgré les difficultés budgétaires rencontrées par les collectivités, la rentrée sur sa commune s'était bien passée.
C'est aujourd'hui, on est là avec une super rentrée scolaire, puisque hier ça a été pareil sur les primaires. Je crois qu'il faut saluer l'engagement qu'il y a encore en Nouvelle-Calédonie pour les enseignements. On avance, hein. Demain, ça sera demain. Aujourd'hui, je vous dis, il y a eu une très très belle rentrée scolaire. On a malheureusement un peu moins de moyens. Donc, il ne faut pas laisser nos bâtiments publics se dégrader. Mais j'ai vu dans les yeux, j'ai discuté avec un certain nombre de personnes, ça fonctionne aujourd'hui. Et demain, il faut surtout s'engager à trouver un accord qui nous permette de continuer à vivre dans cette paix que tout le monde recherche.
Des propos recueillis ce matin par Lionel Sabot. Les élus de la province sud sont également allés sur le terrain ce matin. Ils ont rencontré l'équipe pédagogique et les élèves de l'école primaire bilingue Michel Amiot à Magenta, Léo Fichou.
Et oui, Sonia Baquès, présidente de la province sud, accompagnée de Gilles Brial, deuxième vice-président, et de Marie-Jo Barbier, présidente de la commission provinciale de l'enseignement. Tous les trois ont été accueillis en chanson. Les élèves ont chanté l'hymne néo-zélandais. Les élus ont pu échanger avec l'équipe pédagogique avant de visiter cette école Michel Amiot, une école qui n'a pas été choisie au hasard, explique Sonia Baquès, présidente de la province sud.
Alors c'est une école qui a été quand même touchée par ce qui s'est passé puisque le mur d'escalade qui est juste à côté a été brûlé, mais qui est restée ouverte sur la totalité de la période où les écoles étaient ouvertes. Également parce que c'est une école bilingue depuis 2023. On est à la 12e école bilingue qui a été ouverte en province sud. En tout, ce sont 16% des enfants de la province sud qui sont scolarisés en école bilingue, un peu plus de 2400 enfants. Et c'est vrai que ça fait partie des réussites, puisque les enfants, maintenant, on a le recul sur des cohortes entières qui sont arrivées, qui ont dépassé le bac et qui sont des enfants aujourd'hui complètement bilingues.
Sonia Baquès, présidente de la province sud, en a profité pour rassurer les Calédoniens. Toutes les rentrées scolaires se sont bien passées pour les enfants. Il n'y a pas eu d'incident marquant.
Et cette rentrée scolaire 2025 subit les conséquences des violences insurrectionnelles. On sait qu'en raison de l'effondrement de ses recettes, la province sud a dû adapter les bourses et les aides scolaires et du GPE monte au créneau. Le collectif d'urgence sociale qu'elle a constitué était réuni ce matin devant l'hôtel de province et il a annoncé qu'il allait transmettre à la collectivité une liste des familles dont les enfants sont impactés par ces mesures. Jean-France Toutiquian est le secrétaire général de l'UGPE.
C'est des familles, on peut dire, en détresse sociale. Certaines ont quasiment décidé d'abandonner le combat, de garder les enfants chez elles à la maison. D'autres ont décidé de repartir aux îles et au nord. Et d'autres sont vraiment en détresse, essayent de trouver des solutions avec leurs familles proches. Mais c'est compliqué parce que tout le monde est dans des situations sociales difficiles maintenant. Il y a quelques familles qui ont déjà déposé des recours au tribunal administratif. Il y a déjà des dossiers qui sont résolus, heureusement. La province sud étudie quand même les dossiers, mais ça nous semble très très lent. C'est vraiment au compte-goutte qu'il y a des régularisations.
Gilles Brial, le deuxième vice-président de la province sud en charge de l'enseignement, a pris connaissance de la liste déposée par le collectif. Certains élèves et leurs familles ne rentrent pas dans le champ de compétences de la province, nous a-t-il expliqué.
Il y a des élèves qui sont dans le secondaire, dans des collèges ou des lycées ou dans l'enseignement privé, donc qui ne sont pas gérés par la province sud. Il y a des élèves dans la liste qui sont déjà inscrits et il y a des élèves qui, les parents n'ont pas fait de demande. On ne peut pas gérer l'inscription d'élèves dont les parents ne se sont pas fait connaître. Si vous voulez, sur nos inscriptions, on a 35% des demandes qui ont été réalisées hors délai. Entre la semaine dernière et aujourd'hui, on a plus de 200 parents qui sont venus inscrire leur élève. C'est parce qu'ils avaient oublié d'inscrire leur élève à l'école. Donc ça, c'est une vraie difficulté de gestion de nos effectifs. Et là, il faut savoir que depuis le 1er janvier, on a eu 1000 inscriptions supplémentaires. Donc l'administration, qu'elle soit provinciale ou municipale, a dû gérer ces inscriptions au fur et à mesure.
Gilles Brial, qui s'est par ailleurs engagé à rencontrer les représentants du collectif Urgence Sociale.
Mazda vous offre les pages Souvenirs de rentrée. Chez Mazda, en ce début d'année, retrouvez toute notre gamme. Citadine, SUV, utilitaire, sportive, à chaque besoin, nous avons ce qu'il vous faut. Passez-nous voir et trouvez le véhicule dont vous avez besoin pour vous, votre activité professionnelle ou vos loisirs.
Notre rubrique spéciale rentrée scolaire et ce midi, c'est le proviseur du lycée La Pérouse, Gilles Huquet, qui raconte ses souvenirs de rentrée et nous parle de l'évolution de son métier.
La première fois, je crois, quand je suis rentré à l'école, c'était il y a très longtemps à Lifou, une école de tribu. Je crois que c'est la rupture avec le fait de quitter pour la première fois les parents, la famille. Et puis surtout, quand on est petit, on est appelé, puis on doit aller se ranger avec un groupe, comprendra que c'est la classe, le groupe classe. Comme aujourd'hui encore, quand on prend la rentrée scolaire, on a des vêtements neufs, on a le cartable neuf, tout ce qui est neuf, quoi. Je crois que c'est aussi ça qui marque un petit peu la rentrée. Et puis, de trouver des camarades.
Quelles sont les principales évolutions par rapport à cette époque, maintenant que vous êtes chef d'établissement ?
Alors, c'est immense, hein. Il y a des gros bouleversements. Puis il y a aussi, je crois que depuis ces moments-là, il y a aussi l'évolution statutaire et politique du pays. Il y a le transfert des compétences dernièrement, depuis 2012, à la Nouvelle-Calédonie. Ce sont des grands, des profonds changements quand même dans notre société calédonienne. Donc il y a énormément de bouleversements, de changements. Mais je dirais simplement qu'heureusement que l'école est là, L'école qui permet à tous, qu'on soit riche, pauvre ou peu importe, mais qui nous permet d'apprendre à vivre ensemble. Je crois que c'est l'espace d'instruction, mais aussi d'éducation et d'apprendre à vivre ensemble. De profonds changements aussi, il y a cette révolution numérique qui n'existait pas de notre époque. Aujourd'hui, bien avec tous les outils, tous les moyens, toutes les nouvelles technologies de communication, on se rend compte que ça a profondément changé quand même l'enseignement. Si nous comparons à notre époque, il y a une trentaine d'années. Donc les nouvelles technologies, effectivement, ont profondément changé, bouleversé peut-être aussi des habitudes de l'école. Donc il a fallu s'adapter. En tout cas, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont en phase avec ces moyens-là. Nous, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on réapprenne peut-être aussi certaines techniques de communication. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut noter effectivement de grands changements de notre époque jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pour les tenues également, j'avais moi initié la première tenue commune au collège Bonnoux. Ça a été plutôt un succès puisque aussi bien les parents d'élèves que les personnels étaient très contents justement d'avoir les tenues communes. Au départ, ceux qui n'étaient pas trop pour, finalement se sont rendus compte qu'on a beaucoup moins de problèmes aussi. D'autres problèmes générés par les tenues, par les marques, par ceci, cela. Et donc là, tout le monde était à la même enseigne. C'est-à-dire les mêmes tenues pour tous.
Voilà le proviseur du lycée La Pérouse, Gilles Ukewe, au micro de Kélinda Boicou.
C'était les pages souvenirs de rentrée offertes par Mazda. Passez nous voir à notre showroom situé au 174 rue Auguste Bénébigue à Magenta et repartez avec le véhicule qui vous convient. De la citadine à l'utilitaire, Mazda, c'est toute une gamme qui s'adapte à vos besoins. Mazda, drive together.
Des souvenirs de rentrée scolaire des chefs d'établissement à retrouver dans toutes nos pages spéciales rentrée scolaire.
C'était les pages spéciales rentrée avec Bureau Vallée.
La rentrée sans stress, c'est sur le site bureauvallée.nc. Téléchargez votre liste scolaire directement sur le site bureauvallée.nc et notre intelligence artificielle s'occupe de tout. En trois clics, votre panier est prêt. Livraison ou retrait en magasin, c'est rapide et ultra simple.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Et la rentrée scolaire, c'est aussi dans notre rendez-vous opinion.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier. 80% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il faut renforcer la sécurité des établissements scolaires pour cette année 2025. Ils sont 20% à penser à l'inverse que ce n'est pas nécessaire. Voici notre question du jour. Après la publication des chiffres de l'ISEE, pensez-vous que le tourisme va repartir cette année sur le territoire? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Un mot de politique avant la première pause de ce journal. Le bureau politique du Palika tient à se démarquer des décisions prises par la province Sud pour la rentrée 2025. Dans un communiqué, il estime que la province ne doit pas faire subir aux enfants et aux familles des décisions éminemment politiques sous prétexte d'événements politiques dont ils ne sont nullement responsables à l'origine. Le Palika qui demande à l'exécutif de la province Sud de revoir ses mesures à l'occasion de la prochaine décision modificative pour permettre la scolarisation des enfants dans de meilleures conditions. Fin de citation. Une première pause, on se retrouve pour voir le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
Oh là là, la rentrée arrive, je vais être débordée. Entre les courses, les enfants, les repas.
Les repas? Pas de panique, avec la casserolette, tu n'as même pas besoin de lever le petit doigt. Ils livrent des plats variés, chez toi ou au bureau.
Sérieux? La solution toute cuite?
Eh oui, tu commandes en ligne, sans engagement, sur www.lacasserolette.nc.
Ah, mais c'est génial! Merci pour l'idée!
La casserolette, un service aux petits oignons depuis 1990.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Le monde économique souhaite rencontrer Manuel Valls à Nouméa. Le ministre des Outre-mer arrive samedi sur le territoire pour une huitaine de jours afin de poursuivre la séquence entamée à Paris. Les partenaires sociaux ont dressé un bilan plutôt positif du forum économique qui s'est tenu au ministère de l'économie à Paris et en visioconférence à Nouméa. Mimsy Delay était notre invité ce matin à 7h30. La présidente du MEDEF attend maintenant des annonces concrètes.
Nous attendons des annonces concrètes sur un certain nombre de dossiers, mais aussi, et c'est ce qu'on a dit au ministre très fortement, un changement de méthode sur le travail avec l'État, de façon à ce qu'on voit des résultats concrets de l'aide de l'État en Nouvelle-Calédonie.
Mais les annonces concrètes, vous les attendez sur quel sujet ?
Alors déjà, sur la reconstruction des bâtiments publics. Une enveloppe de 200 millions d'euros a été allouée dans le cadre du PLF. Le secteur du BTP attend, et c'est un euphémisme, la liste des bâtiments qui vont être construits et surtout de pouvoir commencer à travailler sur ces projets. C'est la première étape, à notre sens, d'une reprise de l'activité économique. Nous attendons des annonces également sur le dispositif de chômage. L'État nous a demandé de travailler sur l'évolution du dispositif. Donc les partenaires sociaux travaillent actuellement en accéléré sur une évolution possible du dispositif d'indemnisation du chômage. Il y a également besoin de visibilité sur le sujet à long terme des assurances et de la garantie émeute sur lequel l'État recommence à travailler. Et enfin, nous attendons sur nos régimes sociaux, là aussi, des annonces pour la sauvegarde des régimes sociaux qui sont en grande difficulté.
Lors du forum économique, Manuel Valls avait déclaré qu'il ne pourrait pas y avoir de relèvement économique sans compromis politique, tout comme il ne peut pas y avoir de solution politique durable sans relèvement de l'économie. Un point de vue partagé par la présidente du MEDEF.
C'est la vision d'avenir de la Nouvelle-Calédonie qui va être le déclencheur. Aujourd'hui, nous, notre message, c'est sans accord politique et de paix durable. Il est illusoire d'envisager une relance économique de la Nouvelle-Calédonie. Il y a une responsabilité extrêmement importante sur le fait de trouver un accord rapide, parce que sans stabilité, ce territoire ne pourra pas se relancer économiquement, c'est une certitude. On sent bien que les partis en présence ont des avis assez opposés, mais l'appel que le monde économique pourrait leur lancer, c'est en responsabilité trouver les voies et moyens pour assurer la paix durable de ce territoire sans laquelle la reconstruction ne sera pas possible. Et j'ajouterais que la reconstruction ne sera pas possible à la fois sans l'aide de l'État et la capacité d'avoir une vision de paix durable. Et aujourd'hui, on le voit, et les Calédoniens commencent à le voir dans leur vie quotidienne, l'effondrement de l'économie a des conséquences absolument désastreuses sur la vie quotidienne des Calédoniens.
La présidente du MEDEF affirme que Manuel Valls s'est engagé à un temps d'échange avec les représentants du monde économique. Elle déclare que le temps des constats est passé et qu'il faut maintenant des réunions de travail pour trouver des solutions concrètes pour relancer l'économie. La clinique Windomania annonce de possibles retards et reports de certaines interventions programmées. On en a parlé dès hier, Nicolas Legrand.
Oui, comme tous les établissements de soins du territoire, elle fait face, en effet, à une pénurie de personnel soignant. Et cette situation l'oblige à revoir régulièrement le planning des opérations. Parfois, certaines interventions chirurgicales peuvent être remises en cause le jour même. Écoutez les explications de Céline Monnier, elle est la directrice des soins à la clinique Windomania.
On a souhaité alerter la population de possibles reports d'intervention liés en fait à un manque de personnel paramédicaux. Donc on a bien l'ensemble de nos chirurgiens, de nos anesthésistes, mais dans un bloc opératoire, il y a la nécessité d'avoir un certain nombre de personnels formés, donc des infirmiers de bloc opératoire. Et aujourd'hui, on a de gros soucis de recrutement sur ce type de personnel. Il nous en manque globalement 7. Donc on devrait avoir à peu près 32 IBO au sein du bloc opératoire pour fonctionner normalement en 8 salles. Et aujourd'hui, on n'en a que 25. Dès le mois de juin, on avait essayé de lancer des recrutements, y compris avec la métropole. On a effectivement quelques arrivées prévues en mars et en avril, mais en fait, ces arrivées vont tout juste équilibrer les nouveaux départs qui sont programmés.
Le planning des opérations se fait bien sûr en fonction de l'urgence des interventions, mais aussi de la présence des personnels. La reprogrammation est quant à elle aléatoire parce qu'elle dépend du planning opératoire des chirurgiens, mais la sécurité et la qualité des soins demeurent la priorité absolue, assure la clinique.
On a justement fermé des salles de bloc pour ne pas faire l'économie sur la qualité et surtout sur la sécurité des soins. C'est vraiment une question de sécurité de soins là qui est aujourd'hui notre priorité, parce que on ouvre des salles que si on a le personnel suffisant. On préfère fermer une salle si en effet l'effectif n'est pas en nombre. C'est vraiment pour privilégier justement cette sécurité des soins.
Et la pénurie de personnel concerne dans ce cas précis les infirmiers pour bloc opératoire qui ont des compétences spécifiques. Une profession qui était déjà en tension, mais la situation s'est aggravée avec les émeutes de mai.
Les faits divers et un militaire grièvement blessé hier alors qu'il portait assistance à une baigneuse. Il était en randonnée avec des collègues au niveau des marmites de Dumbéa et il a plongé dans la rivière pour venir au secours d'une femme en difficulté. Lors de ce plongeon, le militaire a été grièvement blessé à la colonne vertébrale et les pompiers de Dumbéa sont intervenus pour le prendre en charge. En raison de la gravité de ses blessures et de l'éloignement du site, les secours ont fait intervenir un hélicoptère de la gendarmerie qui a élitreillé le blessé et l'a transféré au Médipôle. La première session d'assises de l'année se tient tiendra du 3 au 21 mars. 7 affaires seront jugées. Il s'agit de 4 meurtres et de 3 affaires de viol, Nicolas.
Oui, une session d'assises présentée ce matin par l'avocat général Philippe Faisandier. On sait que le fonctionnement de la cour d'assises a été fortement impacté par les violences insurrectionnelles, puisque la deuxième session de 2024 devait s'ouvrir le 13 mai. 3 sessions devraient donc avoir lieu cette année pour évacuer le stock d'affaires à juger. Écoutez l'avocat général Philippe Faisandier.
Nous avons 7 affaires qui viennent à la cour d'assises, 4 affaires d'homicide et puis 3 affaires de viol. Parmi ces 7 affaires, une affaire vient en appel et une autre affaire, ce sera la première qui va ouvrir la session, qui est appelée devant la cour d'assises des mineurs. Il y a 8 accusés en tout, 5 d'entre eux vont comparaître détenus. Et 3 vont comparaître étant sous contrôle judiciaire. Les affaires de meurtre ont toutes eu lieu en 2022, donc ce sont des affaires qui n'ont pas tout à fait 3 ans aujourd'hui. Des délais qui s'allongent légèrement, mais qui restent quand même tout à fait acceptables au regard des délais que connaissent les cours d'assises de métropole.
Alors, les affaires de viol ne sont pas présentées dans un souci de protection des victimes. Concernant les meurtres, le premier dossier sera jugé les 6 et 7 mars. Un homme de 38 ans, au moment des faits, est accusé d'avoir tué son voisin de 61 ans le 23 juin 2022 dans un conflit d'attribution de logement à la tribu de Saint-Louis. Sur fond d'alcool, il lui aurait tiré un coup de fusil à une quinzaine de mètres. Il encourt 30 ans de réclusion criminelle. Les 10 et 11 mars, les jurés se pencheront sur une autre affaire de sang qui a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 octobre 2022 à Rivière-Salée. L'accusé, âgé de 20 ans, a passé à tabac un homme de 79 ans qui dormait dans la rue. Ce jeune dealer, qui participait à une fête d'anniversaire, là aussi sur fond d'alcool, était persuadé que quelqu'un lui avait volé 20 000 francs provenant de la vente de cannabis et aurait passé ses nerfs sur la victime qui décédera quelques heures plus tard au Medipôle. Les 17 et 18 mars, c'est une affaire datant du 20 août 2022 qui sera jugée. À la tribu de Nonoué à Canala, l'accusé est intervenu pour séparer une bagarre en marge d'un mariage. L'homme de 51 ans, qui avait bu et s'affairait à la cuisine, a asséné un coup de couteau à la victime âgée de 49 ans qui se battait avec un autre individu. Et puis enfin, la dernière affaire de meurtre sera jugée sur 3 jours, du 19 au 21 mars. Un homme est accusé d'avoir tué sa femme à l'aide d'un objet contondant dans l'appartement familial de Lansvata. C'était le 13 juillet 2022. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre sur conjoint.
En bref, Gérard Péot a été installé ce matin nouveau commissaire délégué de la province Nord-Aconé lors d'un dépôt de gerbes au monument aux morts. Il occupait auparavant un poste de chef de projet au secrétariat général du ministère de l'Intérieur. Gérard Péot a travaillé au conseil départemental du Val-d'Oise, à la mairie de Paris et au conseil régional d'Île-de-France. Il a également été sous-préfet de Meaux en Seine-et-Marne entre 2016 et 2019. Une nouvelle pause à 11h53 avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Préparez votre rentrée en toute sérénité avec Toyota Nouméa, Toyota Kone et Toyota Lifu. Le Toyota Raise à partir de 29 900 francs par mois, entretien inclus. La Toyota Corolla Cross hybride à partir de 49 900 francs par mois, entretien inclus. Le Toyota RAV4 hybride à partir de 55 900 francs par mois, entretien inclus. Le Toyota Hilux à partir de 59 900 francs par mois, entretien inclus. Profitez des offres rentrées et roulez en toute tranquillité avec Toyota. Toyota reste ouvert en continu de 7h30 à 17h. Alors passez nous voir, même à midi. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Profitez de votre jardin avec Jardiland Nouméa. Jusqu'au 4 mars, notre débroussailleuse à guidon 33 cm cube JDI est à 14 900 francs seulement. Alors n'attendez plus pour prendre soin de votre jardin. Avec Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland. Cultivez votre bien-être.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Bodin.
Les pays européens veulent une place à la table des négociations sur un éventuel cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Le président américain a pris les devants et les négociations devraient commencer bientôt. Mais pour l'instant, les Européens sont tenus à l'écart. Emmanuel Macron a donc convoqué une réunion informelle à l'Élysée en présence de certains dirigeants européens. Mais les participants ont montré qu'ils ne parlaient pas d'une même voix. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Nous sommes à un tournant. Ce qui se joue en ce moment, c'est la sécurité de l'Europe.
a résumé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à l'issue de cette réunion. Silence total, en revanche, du côté de l'Élysée, qui n'a pas prévu de communiquer dans l'immédiat sur les conclusions de ce mini-sommet à l'initiative d'Emmanuel Macron. Pas d'acte fort pour la défense européenne, donc, ni d'annonce concrète. Et une question qui cristallise les divisions, faut-il envoyer des troupes en Ukraine pour sécuriser un éventuel cessez-le-feu négocié par les Russes et les Américains? France, Royaume-Uni et Suède envisagent sérieusement ce scénario, mais l'Allemagne, Pologne ou Espagne excluent à ce stade tout envoi de troupes. Dos au mur, les Européens semblent donc ce soir toujours pris de vitesse par le plan de paix qui s'esquisse sans eux, alors que le chef de la diplomatie américaine commencera demain à échanger avec son homologue russe en Arabie Saoudite.
Et toujours à propos de l'actualité à l'étranger, l'idée de Donald Trump de faire de la bande de Gaza la Côte d'Azur du Moyen-Orient fait son chemin. Israël a annoncé la création d'une future agence spéciale pour le départ volontaire des habitants de Gaza. En métropole, le début du procès de Mehdi Nemmouche, déjà condamné à perpétuité pour l'attentat au musée juif de Bruxelles en 2014. Le terroriste de l'État islamique est soupçonné d'avoir été l'un des geôliers de plusieurs otages, parmi lesquels figurent quatre journalistes français, Didier François, Nicolas Hénin, Édouard Elias et Pierre Torres. Les quatre hommes l'ont formellement identifié comme étant l'un de leurs tortionnaires, ce que dément Mehdi Nemmouche devant la cour d'assises spéciale de Paris, Guillaume Dominguez.
L'audience a repris un peu avant 15h. Le président est revenu en détail sur les faits, les quatre enlèvements et séquestration consécutive des journalistes français en 2013 et sur les sévices qu'ils ont subis entre les mains des geôliers de l'État islamique, lynchage, électrocution, privation de nourriture et simulacre d'exécution, autant de crimes que nient en bloc les trois accusés présents dans le box et en particulier Mehdi Nemmouche. Je n'ai jamais été le geôlier des otages occidentaux ni d'autres otages, je n'ai jamais gardé de prisonniers, je n'ai jamais rencontré ces personnes, a-t-il dit en regardant droit dans les yeux les ex-otages présent aujourd'hui sur le banc des parties civiles. Une prise de parole qui ne pèse pas lourd. Mehdi Nemmouche a été clairement identifié par les quatre anciens otages. Ils ont reconnu son visage, ses gestes, sa voix. Tous décrivent un homme violent, instable, un mégalomane pervers qui prenait plaisir à torturer ses victimes. Déjà condamné à la prison à vie pour l'attentat du musée juif de Bruxelles en 2014, il encourt une nouvelle fois la réclusion criminelle à perpétuité.
Toujours en métropole, un rapport parlementaire préconise de légaliser le cannabis et de dépénaliser l'usage des stupéfiants. Rapport qui émane d'un député LFI et de l'un de ses collègues macronistes qui se retrouve en marge de son groupe. En tout cas, cette proposition a fait bondir le ministre de la Justice, Gérald Darmanin.
Quand on a des élus qui proposent la dépénalisation, on donne des coups de poignard à l'éducation. Il n'y a pas de société qui ont réussi à légaliser ou à dépénaliser la drogue sans d'énormes augmentations de la consommation. Je m'inscris entièrement en faux. Ne croyez pas que ceux qui vendent du shit vont demain parce que des parlementaires ont décidé de légaliser, ouvrir une petite boutique, hein, en appelant les impôts, puis en appelant l'URSSAF aussi, puis en payant leur loyer.
Voilà Gérald Darmanin lors d'un déplacement dans l'Orne. Et puis à 15h cet après-midi, hors de Nouméa, Elon Musk s'apprête à lancer son propre système d'intelligence artificielle. Il s'appelle Grok 3, mis en place par sa société XAI. Il la présente comme l'IA la plus intelligente au monde, mais que faut-il en attendre? Aurélien Fleureau pour Europe 1.
Cela fait quelques semaines que cette nouvelle version est attendue et Elon Musk en a parlé vendredi dernier. Il intervenait à distance lors d'un sommet mondial organisé à Dubaï.
Grok 3 a des capacités de raisonnement très puissantes. D'après les derniers tests que l'on a réalisés, Grok 3 est à notre connaissance beaucoup plus performant que tout ce qui est sorti jusque-là. Du genre à se dire « waouh, ce truc est intelligent ».
Et s'il y a un effet « waouh » à attendre, ce sera bien sûr cette capacité de raisonnement en répondant rapidement, précisément aux demandes des internautes, explique Jean-Baptiste Bouzige, président d'Equimetrix.
S'il y a un coup à faire en ce moment, en mode effet d'annonce, je pense qu'Elon Musk va être dans un narratif très Silicon Valley, du toujours plus de puissance de calcul, toujours plus de processeurs, toujours plus de données, et on est toujours plus près de l'intelligence artificielle générale. Je pense qu'il ne faut pas se laisser entraîner dans ce narratif.
Car la puissance ne fait pas tout, et là où l'IA d'Elon Musk devra faire ses preuves, c'est sur la fiabilité des sources, notamment sur la plateforme X, où il défend à tout prix la liberté d'expression, mais cela génère aussi le risque de voir son intelligence artificielle se baser sur de fausses informations.
Et on va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, quelques mots de sport avant de retrouver juste après notre magazine citoyen.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Tous les lundis, chez Mobile, doublez vos points Conso Plus. Et ce n'est pas tout. Chaque lundi, Mobile offre à un gagnant ses achats en caisse. Ne manquez pas cette chance. Rendez-vous le lundi dans les stations mobiles participantes.
Mobile Energy lives here.
fête du sport avec la ville de Nouméa.
Rendez-vous ce samedi 22 février de 9h à 15h au stade Pentecôte et à la salle Omnisport de Lanzvata pour une journée à la découverte des pratiques sportives à Nouméa.
Individuelle, collective ou originale, il y en aura pour toutes vos envies.
Profitez de la présence des associations, ligues et comités sportifs pour vous informer, vous initier et pourquoi pas vous inscrire. Retrouvez le programme complet sur nouméa.nc et la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Alors on va parler football avec les barrages retour de la Ligue des Champions. C'est demain matin et notamment un club français en lice, Monaco, qui avait perdu 1-0 au match aller, qui doit s'imposer sur la pelouse du Benfica Lisbonne pour espérer décrocher son billet pour les huitièmes de finale. Dans les autres rencontres, l'AC Milan battu à l'aller 1-0 jouera contre le Feyenoord Rotterdam. L'Atalanta Bergame défait 2-1 à l'aller accueillera le club de Bruges. Et le Bayern Munich vainqueur 2-1 à l'aller sera opposé au Celtic Glasgow. Du tennis avec des Français engagés dans deux tournois ATP 500 cette semaine. À Doha d'abord, Quentin Alice, seul représentant tricolore, affrontera la nuit prochaine au premier tour le Canadien Félix Auger-Aliassime. Du côté de Rio de Janeiro, trois Français sont au premier tour. Hugo Gaston rencontre l'Argentin Cerundolo, tête de série numéro 4. Corentin Moutet affrontera un autre Argentin, Thomas Martin Echeverri, tête de série numéro 8. Et enfin, Alexandre Muller jouera le Brésilien Fonseca. Et puis, des nouvelles de Maxime Chazal, qui est lui au Congo et dispute le Challenger de Brazzaville, où il est engagé en simple et en double. En simple, le Calédonien tête de série numéro 4 du tournoi sera opposé au Marocain Yacine Smiège à 23h30, heure de Nouméa. En double, il jouera aux côtés d'un autre Français, Geoffrey Blancano, passé par les cours de Nouméa.